La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Alors qu'un certain nombre de pays dans le monde retrouvent un taux normal de mortalité et que l'espoir de la fin de la pandémie Covid-19 nous permet de sortir peu à peu du confinement et de la peur, je vous propose de revenir sur notre rapport à la mort dans nos sociétés au fil de l'histoire. C'est la question de notre seuil de tolérance par rapport à la mort. C'est la question du prix que nous accordons à la vie lors des guerres ou des pandémies, les deux grands fléaux responsables des morts en masse de l'histoire. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, je suis heureuse d'avoir en ligne Ariel Kolonomos. Il est l'auteur du livre « Un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure » et c'est aux éditions Presse Universitaire de France. Bonjour Ariel.
Bonjour Valérie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CERI en sciences politiques et au fil de vos travaux, vous avez conceptualisé cette idée du prix de la vie. Ça veut dire quoi en fait ?
Le prix de la vie, c'est une question politique qui est essentielle. Dans les choix politiques que nous faisons, qu'un État fait ou qu'une autre organisation politique fait, il y a toujours d'une part, des vies humaines qui sont en jeu et des intérêts qui sont à poursuivre ou à préserver. C'est le cas dans les guerres, bien évidemment, mais bien au-delà, c'est le cas lorsqu'il s'agit de verser de l'aide internationale, une aide économique. C'est le cas lorsqu'il faut négocier la libération d'otages, mais c'est aussi le cas lorsqu'il s'agit de soigner, et notamment dans le cas de pandémie. Mais ce prix de la vie a deux versants. D'une part, c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident, eh bien, on paye pour des vies, c'est-à-dire que l'on paye pour soigner, par exemple, pour soigner des personnes qui sont malades, on aide pour secourir, on aide pour réparer, par exemple en donnant des réparations économiques à la suite d'une guerre ou à la suite d'un attentat. Donc on paye pour des vies, mais il y a un autre volet. Ce deuxième volet, c'est eh bien, lorsque l'on paye avec des vies. Et là, c'est un aspect beaucoup plus sombre du prix de la vie. C'est lorsque l'on décide de faire des sacrifices en termes humains pour préserver des intérêts. Évidemment, c'est ce qui se passe parfois dans le cadre des guerres, lorsque des personnes sont tuées en vue eh bien, de gagner des batailles, des soldats ou bien des civils. Mais c'est le cas dans bien d'autres domaines. Et même dans le cadre d'une pandémie comme celle à laquelle nous assistons, eh bien, lorsque des intérêts économiques sont en jeu, parfois, eh bien, il faut continuer à vivre et à travailler. Et cela, peut-être, pourrait occasionner de nouvelles contagions, voire éventuellement de nouvelles morts. Et ce sont ces choix très, très difficiles qui sont au cœur du politique, qui fait les deux, qui paye pour des vies et qui paye avec des vies.
Donc, Ariel Kolonomos, cela veut dire que la vie, elle peut se mesurer en argent. Vous l'avez cité, par exemple, c'est le mécanisme des indemnités pour les victimes du terrorisme ou encore pour les victimes des catastrophes naturelles. Mais en quoi le prix de la vie, ça peut être également une question politique ?
Lorsque dans le cadre d'une guerre, vous définissez des objectifs, vous définissez des objectifs militaires qui sont également des objectifs politiques. Et cela, c'est en fonction de votre intérêt. Dans les guerres, les États poursuivent un intérêt national. Et cet intérêt national, il est rapporté aux vies humaines qui sont en jeu. On n'utilise pas la bombe atomique parce que votre douanier a été frappé par le douanier de l'État voisin. C'est une question de proportion, de juste mesure. Et cela concerne des intérêts qui peuvent être des intérêts monétaires, mais des intérêts matériels au sens plus large que sont les intérêts politiques.
Alors, ce qui est très frappant, c'est que dans la pandémie du Covid-19 à laquelle nous sommes confrontés, dans nombre de pays, le discours dominant, c'est plutôt de dire que la vie n'a pas de prix et que chaque vie compte, quel qu'en soit le coût. C'était d'ailleurs une formule du président Emmanuel Macron.
Oui, c'était dans un de ses discours qui était frappant et qui avait marqué un tournant dans la politique du gouvernement. Évidemment, payer pour des vies, c'est ce qui ressort le plus. Et je crois d'ailleurs que dans le prix de la vie aujourd'hui, le prix que l'on donne à la vie aujourd'hui, c'est peut-être son aspect prédominant. C'est un aspect très, très important. Mais ce n'est pas le seul. Quand bien même, dans le cas de cette pandémie, où ce qui nous préoccupe aujourd'hui, évidemment, c'est de sauver des gens. Et en effet, de payer pour les soigner, mais aussi de payer pour prévenir leur contagion en arrêtant l'économie. Mais payer pour des vies n'est pas le seul aspect du prix de la vie aujourd'hui à propos de cette pandémie. Parce que, souvenons-nous de la trajectoire qui a été la nôtre avec ce mouvement de passage d'une vie à peu près régulière et normale, alors même que l'épidémie, qui ensuite a été appelée à juste titre pandémie, était là. Ensuite, ce moment du passage dans le confinement et puis le moment du déconfinement. Mais revenons en arrière au mois de décembre, de janvier, de février, de début mars. La pandémie est là. Elle n'est pas reconnue par la Chine au départ, voire même les autorités chinoises essayent de masquer des informations, de les bloquer en arrêtant des sonneurs d'alerte. Et tout cela, évidemment, pour continuer à vivre normalement et pour ne pas arrêter notamment une économie et tout un ordre social pour préserver des intérêts. Mais en faisant cela, et puis ensuite en disant que cette pandémie était une grippette, eh bien, on a tout simplement payé avec des vies la poursuite de ces intérêts, ces vies qui n'ont pas été sauvées en prenant des mesures de précaution qui n'ont pas été prises, principalement au point de départ dans le foyer qui était ce marché en Chine. Et la responsabilité de ce point de vue est lourde, mais également chez certains gouvernants qui ont minimisé cette pandémie. Et donc, on a au départ payé avec des vies. Et ensuite, fort heureusement, on a payé pour des vies et on a payé beaucoup aussi. Et c'est un des traits, peut-être on y reviendra, mais c'est un des traits extrêmement intéressants de ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, c'est de voir justement les sacrifices économiques que les gouvernements ont fait, qu'ils ont décidé de faire pour enrayer la pandémie. On a beaucoup payé pour des vies. Et ensuite, troisième acte, c'est le moment du déconfinement, un moment extrêmement difficile qui est celui de savoir quand est-ce qu'on peut à nouveau faire repartir cette logique des intérêts économiques et des intérêts politiques, au risque peut-être de relancer des foyers. C'est ce que tout le monde est en train de surveiller en ce moment. Et donc, on prend le risque de payer avec des vies en disant, mais voilà, enfin, peut-être que ce risque est raisonnable compte tenu de tous les intérêts auxquels nous avons jusqu'à présent renoncé. Il y a toujours ce double mouvement, payer pour des vies et payer avec des vies. Et tout l'art du politique, c'est de savoir comment passer de l'un à l'autre, comment jongler d'une certaine manière. Et c'est là où on voit à quel point l'art du politique, cet art de la juste mesure, est aussi un art du pari, parce qu'il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de science exacte ici. Il y a une appréciation du risque qui peut être acceptable ou qui au contraire est inacceptable.
Et ce qui est très intéressant, Ariel Kolomonos, c'est que cette notion du prix de la vie au temps des pandémies, on peut l'aborder à la lumière de l'histoire parce que c'est une notion fluctuante au fil du temps. Personne n'oubliera le Covid-19 et pourtant tout le monde avait oublié la grippe de Hong Kong.
Pour la première fois de ma vie, je suis malade et je me mets au lit pendant 8 jours parce que j'ai pris une grippe carabinée. Voilà, donc c'est pour ça que je me rappelle cette grippe de Hong Kong, parce que c'était une des premières grippes véritablement qui secouait, on va dire, l'ensemble de la France, ben, au moins.
C'est une évolution de la souche de la grippe asiatique apparue 10 ans plus tôt qui est à l'origine de la grippe de Hong Kong. Cette grippe apparaît probablement en Asie centrale ou en Chine dès février 1968 et elle va très vite devenir pandémique. Ce n'est pas à Hong Kong, mais à Singapour qu'elle est identifiée à la mi-juillet 1968. Puis elle se développe dans la colonie britannique de Hong Kong, où elle affecte 15% de la population, d'où son nom, grippe de Hong Kong. Cette grippe de Hong Kong a d'ailleurs été la troisième pandémie du XXe siècle, après la grippe espagnole et la grippe asiatique, mais elle restera longtemps sous-estimée pour de multiples raisons. En recherchant, non sans difficulté, des médecins, des infirmiers ou encore des anciens malades de cette grippe de Hong Kong, notre reporter Clémentine Métainier nous permet d'imaginer son niveau de mortalité, mais aussi le rapport des Français à une épidémie comparable au Covid-19, environ 30 000 décès en France et 1 million dans le monde en 1969. On écoute ensemble, avec notre invité Ariel Colonomos, ce reportage de Clémentine Métainier.
En 1969, Isabelle de Ramon a 15 ans. À cette date, elle est interne avec ses quatre sœurs aux loges d'honneur de Paris, la maison d'éducation de Saint-Germain-en-Laye créée par Napoléon Ier. Aujourd'hui médecin généraliste, elle a été réquisitionnée au SAMU de Vannes dès le début de l'épidémie de Covid-19 et c'est cela qui lui a valu une réminiscence de vieux souvenirs.
Au bout de 15 jours, c'était quand même très lourd d'avoir les appels, l'organisation avec tout le protocole, avec une excellente ambiance entre les hospitaliers et les généralistes. Enfin, on s'est redécouvert, on a pu effectivement bien travailler ensemble. Et là, ça m'est revenu à la figure, mais alors à toute vitesse, cette de malaise, de fièvre que j'avais eu, que j'avais complètement oublié. Bon, on a tous eu des grippes. C'est quand j'ai pris mon poste à Vannes, en fait, j'ai posé la question à beaucoup de monde. Donc, j'ai cherché sur Internet en me disant, est-ce que j'ai rêvé? Mais je suis sûre que j'ai eu une grippe, moi, quand j'avais 14 ans. Donc, c'est là-dessus que je suis tombée sur un article de Libé, je crois. Et donc, c'était bien celle-là.
Quels souvenirs vous sont revenus, justement?
D'un seul coup, on est en classe, on écoute le prof, et il y a une montée de fièvre. Pas de vertige du tout, parce que du coup, toute seule, je me souviens être allée à l'infirmerie. Bon, c'était quand même une épidémie, donc les profs nous surveillaient. J'étais pas du tout un des premiers cas. On était quand même 600 en collège, 150 par promotion. Et du coup, effectivement, comme on est toutes pensionnaires dans cette école, on se connaît toutes, il y avait des va-et-vient et une immense fatigue, coup de chaleur, on chauffe, on va à l'infirmerie, on nous pose quasiment aucune question, on nous couche. Et le lendemain, le docteur Bertrand, Saint-Germain-en-Laye, venait ausculter, celle qui pouvait ausculter, entre autres les filles de médecins étaient auscultées. Et au bout d'une semaine, parce que ça, vraiment on était une semaine à l'infirmerie, l'infirmerie était grande, hein, puisque je vous dis, on était pensionnaires, ils avaient ouvert un dortoir qui était plein craqué. Le dortoir à Saint-Germain-en-Laye était de 60 lits à peu près. Et on faisait notre deuxième semaine de convalescence dans ce dortoir. Il y avait des va-et-vient, des surveillantes, etc. Et qui nous apprenaient même à pas tousser, parce que c'était une toux sèche, coqueluchoïde, très douloureuse. Elle nous racontait, les souvenirs d'épidémie de coqueluche. Vous avez eu à gérer. Et c'était pas la même chose du tout. Mais cette toux était comparable, donc il fallait bloquer de façon à arrêter le processus entre cerveau et poumon. Et on bloquait, on buvait un verre d'eau, on bloquait, et ensuite on soufflait. Enfin, c'était. Tout ça m'est revenu.
À aucun moment, Isabelle, vous n'avez eu un sentiment de peur, d'être emportée par la maladie, surtout si elle était assimilée à la mémoire de la coqueluche?
J'ai pas eu peur du tout. D'abord, j'étais très en confiance parce qu'on avait une infirmière, Mme Fargo, qui était une femme extraordinaire, qui a dû gérer des épidémies probablement beaucoup plus graves que cette grippe. Donc, ça posait pas du tout de problème de risque de décès, hein. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas eu. Les jeunes étaient très atteints, étaient quasiment toutes atteintes, enfin beaucoup, mais il n'y a pas eu de décès. On est insouciant à cet âge-là, on n'a pas du tout. Moi, j'ai jamais eu l'impression que j'allais mourir. Au contraire, enfin, cette chaleur qui nous monte dans le corps, on monte jusqu'à 40. c'est très agréable, c'est comme une anesthésie. Voilà, on nous proposait beaucoup de tilleuls. On avait un grand tilleul dans la cour d'honneur et il y avait beaucoup de réserves de tilleuls. Et puis, on prenait la place de l'une et l'autre prenait la place. Ensuite, on allait en convalescence dans ce dortoir et puis on reprenait les cours. Les profs, de toute façon, ne s'arrêtaient pas. Et puis, il y a eu un va-et-vient pendant presque un mois.
Vos sœurs, vos parents, est-ce qu'ils s'en souviennent ?
Quand j'en ai parlé à maman, je lui ai demandé. Et elle me dit, moi, je ne me souviens pas du tout. Mais je ne me souviens pas de cette grippe de 69. Ah ben, on nous a peut-être pas prévenus. Et je lui dis, c'est probablement ça. On ne nous a pas prévenus. Et si elle ne s'en souvient pas, c'est que de toute façon, même si on était malade, au fond du lit, bon, on ne prévenait pas les parents à l'époque. Bah, à l'époque, la santé passait derrière le reste, hein, presque derrière les études. Hein. Elle habitait Berck. Je me demande si cette grippe n'a pas atteint essentiellement Paris, la région parisienne, et avec les transports, on sortait tous les week-ends, le métro, etc. Paris a été très, très touché. Alors, est-ce que dans le reste de la France, il y avait des cas ? Mais en tout cas, elle ne s'en souvient pas.
Bonsoir. Oh, bientôt il sera plus pratique de dire tout de suite à vos souhaits pour entrer rapidement dans le vif du sujet. La grippe, elle est là. En Bourgogne hier, les avant-gardes sont à Paris aujourd'hui. On a tout dit, tout essayé. Vaccin, vitamine C, etc. Alors pour essayer de savoir si vous avez trouvé le remède miracle, Jacques Bertrand est allé demander aux Parisiens de quelle façon ils luttent contre la grippe. Eh bien voici le panorama des armes secrètes.
Le meilleur moyen de ne pas avoir la grippe, c'est premièrement de bien s'abriter quand on sort, d'être bien couvert, rester au chaud.
Je vais rester au chaud parce que je peux, puisque je ne travaille plus malheureusement. Et des tisanes parce que vu mon âge, je ne peux pas me permettre de boire des grogs, ça me ferait du mal.
Le remède, c'est du rhum, un bon grog au rhum. Les médicaments, ça fait mal à l'estomac.
La grippe ? Oh non, moi j'ai jamais la grippe, moi.
Alors si vous l'aviez ?
Ça partirait avec la bête.
Je suis à la finale de la grippe. Comme tout bon mouftarien étant, malgré champêtre, je l'ai pris dès le début. Comment je l'ai guéri ? Pas la volonté de guérir par mes 60 ans.
Comment soignez-vous votre grippe ?
Oh, j'ai soigné avec des huiles, l'olive.
Avec du jus de citron ?
Du lait avec de la teinture d'iode.
La grippe, oui.
Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ?
Oh ben, je me soigne tout seul, moi.
Vous avez des remèdes contre la grippe ?
Oh oui, du poivre. Du poivre, ça fait éternuer, c'est encore pieux et tout coule.
Je suis ancien coureur cycliste, j'en ai 72 ans et tout va très bien. J'ai horreur des médicaments d'abord.
Monsieur le porteur, vous faites un métier à attraper la grippe, vous ?
Ah, je pense bien, et puis je l'ai, hein.
Alors dites-moi, lorsque vous avez la grippe, qu'utilisez-vous comme remède ?
Oh, rien du tout, du vin chaud, mais on ne nous en donne pas.
Le professeur Pierre de la Monica est aujourd'hui âgé de 75 ans, à la retraite après une longue carrière au sein du service infectiologie du CHU de Nice, où il arrive en 1971. 2 ans plus tôt, au moment de la grippe de Hong Kong, il est encore étudiant en médecine externe au service d'urgence médicale de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il a alors 24 ans.
Cette grippe m'a frappé parce que ça a changé en définitive, quasi du jour au lendemain, la routine du service. Cependant, qui était un service d'urgence, donc qui recevait des personnes atteintes sévèrement dans des états graves. Et d'un seul coup, on a vu affluer des personnes relativement jeunes qui présentaient des signes de détresse respiratoire. Alors, classiquement, tout le monde pense que la grippe n'atteint que les personnes âgées. Je pense que c'est relativement faux. Ça atteint certes les personnes âgées qui sont plus sensibles, mais aussi un certain nombre de personnes relativement jeunes, et même des enfants, puisque c'est par les enfants que se transmet le virus de la grippe. Et là, dans ce service, en définitive, ce n'était pas de la gériatrie du tout, c'était des personnes jeunes, 40, 50, 60, 30 ans même. J'ai le souvenir d'un qui m'avait beaucoup impressionné, qui arrivait donc comme des poissons qu'on sort de l'eau, à la recherche de l'air, à la recherche de l'oxygène, et qui souvent émettait une bave mousseuse, un peu rosée, Alors, très rapidement, on essayait d'assurer la liberté des voies respiratoires en aspirant tout ce qui pouvait obstruer. Mais de façon assez évidente, ils avaient des atteintes pulmonaires très graves. Et donc, beaucoup d'entre eux étaient intubés, c'est-à-dire qu'ils étaient mis sous ventilation assistée. Alors, c'était la ventilation assistée de l'époque qui est beaucoup moins sophistiquée et précise que ce qu'on est capable de faire. Et malheureusement, en des temps rapides, en fait, ça se passait rapidement, il y en a beaucoup qui mouraient, très peu qui s'amélioraient, beaucoup qui mouraient. Alors, ce qui m'a frappé dans l'histoire aussi, et ça je m'en souviens toujours, c'est qu'ils affluaient rapidement, ils étaient déposés sur des brancards dans l'entrée du service, donc on les installait s'il y avait des chambres, évidemment, mais bien souvent c'était dans les couloirs du service de réanimation. Et donc, il n'y avait pas toujours le matériel approprié. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui décédaient assez rapidement, au point que les services mortuaires de l'hôpital n'arrivaient pas à aller aussi vite qu'il fallait. Et donc, je me souviens qu'on les entassait en quelque sorte sur leur brancard dans une petite salle qui était au fond du service de la réanimation, en attendant qu'ils les évacuent. Donc ça, c'était assez impressionnant. C'est là où j'ai compris ce que pouvaient être les épidémies et ce qu'a pu être la grippe espagnole de 1918.
Vous vous êtes dit ça sur le moment ou avec du recul après coup ?
Non, sur le coup, je me suis dit ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ma référence, c'est toujours la guerre de 14-18, parce que je me demande toujours si j'aurais eu le courage de faire ce qu'ont fait les poilus à l'époque. Si vous voulez, chaque fois que je suis dans une situation critique, c'est cette image qui me revient.
L'épidémie frappe sur un temps assez court. L'afflux massif de malades commence début décembre 1969 jusqu'à fin février 1970. Et au printemps 70, un vaccin est annoncé.
Donc il y a eu une deuxième étape pour nous parce qu'en dehors de nos gardes, on nous a sollicité pour aller vacciner les gens. Et je me souviens avoir été devant l'Institut Pasteur de Lyon avec la rue bloquée de chaque côté par la police qui filtrait les gens pour qu'ils soient en file. Et on avait deux tables devant l'Institut Pasteur où les gens passaient, on les vaccinait à la chaîne. Et en plus, a posteriori, j'ai appris que c'était un vaccin qui, en définitive, était relativement peu efficace parce qu'il était plutôt adapté à un autre virus que celui qui circulait à ce moment-là.
La population française était-elle informée de cette grippe et comment ?
La chose dont je me souviens a posteriori, puisque à la maison, on parlait évidemment de ce qu'on vivait, on racontait. Et je me souviens de mon père disant « c'est quand même extraordinaire qu'à la radio, à la télévision, on entende à peine parler de ça ». Alors, je pense qu'à force, elle a été informée, puisque le jour où on a annoncé qu'on pouvait se faire vacciner, il y a eu un afflux très très important de gens, c'est qu'ils avaient bien conscience, soit à travers ce qui s'était passé dans leur famille ou leur expérience directement, donc personnelle, qu'il valait mieux se faire vacciner. Mais globalement, on en parlait, dans mon souvenir, très peu. Alors, ce n'était pas dans les conversations quotidiennes. Ce n'est pas quelque chose qui secouait les gens. On était plus centré guerre du Vietnam, guerre du Biafra, parce que c'est à peu près à ce moment-là. Il y avait le rideau de fer. On sortait de mai 68 aussi. Et donc, il y avait, semble-t-il, à ce moment-là, plein de choses à rattraper. Sauf nous, en tant qu'étudiants, si vous voulez, qui étaient hyper sollicités, beaucoup plus que d'habitude, quoi. On n'était pas avec le repos de sécurité comme aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, vous faites une garde quand vous êtes interne. Le lendemain, on vous dit d'aller faire autre chose que de vous occuper des patients. À l'époque, je me souviens, on triplait les gardes même. Donc, je pense qu'on devait être complètement azimutés au bout d'un moment, quoi. Je me souviens de m'être endormi sur un lit... Je me suis assis sur un lit dans un couloir et je me suis endormi dans le lit. Hein.
Et on ne pouvait pas parler d'une véritable gestion politique d'une crise sanitaire.
Les politiques ne s'impliquaient pas du tout là-dedans. C'était une histoire de médecins et ça restait entre médecins. Mais à ce moment-là, le pouvoir public n'est pas intervenu du tout dans le débat pour dire aux gens « restez chez vous, protégez-vous ». Enfin bref, pour donner des conseils, quels qu'ils soient. Enfin, j'en ai aucun souvenir en tous les cas.
Parti l'an dernier de l'Est, le virus Hong Kong A2 est passé par l'Europe centrale. Arrivée prévue de la grippe en France aux alentours du 15 décembre.
En Europe, la première vague du virus fait très peu de dégâts. Aux États-Unis, la grippe de Hong Kong est importée par les soldats américains de retour du Vietnam. En 3 mois, le virus va tuer 50 000 personnes outre-Atlantique. Après une accalmie de quelques mois, le virus déferle à nouveau sur l'Europe à la fin de l'année 1969. Et cette fois-ci, la propagation est massive.
Max Micou, lui, n'a pas connu les hôpitaux bondés. Âgé de 36 ans à l'époque, celui qui a longtemps été considéré comme le patron des infectiologues français garde une mémoire assez fraîche de ce qu'il faisait à Grenoble au moment où cette grippe l'a terrassé.
En 1969, j'étais donc déjà médecin, bien entendu, et je me préparais à m'installer en ville, car jusque-là, j'étais hospitalier, c'est-à-dire que j'ai passé mon internat. Et avant d'être agrégé en 1970, il fallait que je vive. J'étais marié avec 2 enfants et il fallait donc que je gagne de ma vie. Et donc je me suis installé, j'ai ouvert un cabinet en ville, un cabinet de médecine interne. Donc j'étais à Grenoble, hein. J'étais même le plus gros cabinet de la ville, dans l'année où je me suis installé. Très rapidement, j'ai eu énormément de clients. Je commence à 7h le matin, je finissais à minuit quand même. Hein. Donc je me souviens très bien que je me suis installé à ce moment-là. Manque de chance, pour la première fois de ma vie, je suis malade. Et je me mets au lit pendant 8 jours parce que j'ai pris une grippe carabinée. Voilà, donc c'est pour ça que je me rappelle cette grippe de Hong Kong, parce que c'était une des premières grippes véritablement qui secouait... on va dire l'ensemble de la France, quoi, au moins.
À l'époque, Max Micou, est-ce qu'on dénombrait les morts? Est-ce qu'on partageait ces chiffres à la population?
Non, ça sûrement pas, sûrement pas. Autant que je me rappelle, hein. On avait des chiffres qui nous arrivaient en tant qu'infectiologue, mais vraiment, non, on n'avait pas du tout le même type de communication, il n'y avait pas cette angoisse donnée tous les jours, il y a tant de morts aujourd'hui, il y en a tant qui sont rentrés, il y en a tant qui sont sortis, et ça n'existait absolument pas. La télévision, si elle n'avait pas l'impact qu'elle a aujourd'hui. Les images, à l'époque, elles étaient relativement rares. Alors qu'aujourd'hui, il y a une diffusion énorme de la communication, et aujourd'hui, pénètre chez tout le monde, dans tous les foyers, à tout moment, du matin au soir.
Qu'en est-il justement du rapport à la mort, à nos morts que l'on a aujourd'hui et que la population française pouvait avoir il y a 50 ans?
Je pense que le rapport à la mort il y a 50 ans et le rapport aujourd'hui à la mort, à titre individuel, à mes yeux, il reste le même. Même s'il y a une sorte de déchristianisation en quelque sorte, il y a une religion laïque qui a pris le pas sur la religion judéo-chrétienne. Et à titre collectif, le rapport est totalement différent. Il ne faut pas oublier qu'en 68, les gens étaient en activité, avaient encore une mémoire de la guerre, hein, de la guerre que nous avions eue. À cette époque, il y avait encore beaucoup de gens, tous les déportés n'étaient pas morts. Parce que la mort collective, c'était quand même la déportation. Tout ça, il faut tenir compte. La protection collective, si vous voulez, il y a 50 ans, et aujourd'hui, elle est complètement différente. Il y a 50 ans, si vous voulez, la seule protection, c'était l'assurance sociale, quoi, et tout le monde ne l'avait pas. Aujourd'hui, tout le monde est protégé, soit par une assurance privée, soit par une assurance collective, soit je ne sais quoi, etc. Et en plus, les États prennent véritablement en charge tellement à tel point que l'individu, aujourd'hui, il a de moins en moins d'autonomie personnelle.
Écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivelon.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de la marche du monde. Nous venons d'écouter ensemble les témoignages recueillis par Clémentine Métainier sur la grippe oubliée de Hong Kong. Une pandémie mondiale apparue en 1969, dont le nombre de morts en France a été étudié des années plus tard par l'épidémiologiste Antoine Flahault. Lorsqu'il publie ses recherches en 2003, il établit à 31 226 morts le nombre de victimes françaises, un chiffre comparable à l'épidémie du Covid-19. Et pourtant, comme vous avez pu l'entendre, chers auditeurs, les Français l'ont vécu très différemment. Et comme l'a suggéré Max Micou, grand infectiologue français, le rapport à la mort était très différent dans la France de 1969. Et c'est justement cette question du rapport à la mort et donc cette question du prix que l'on accorde à la vie au fil de l'histoire que je vous propose d'explorer grâce à notre invité Ariel Kolonomos, directeur de recherche au CNRS au sein du Centre de recherche international, le CERI de Sciences Po. Ariel, j'aimerais tout d'abord que vous puissiez réagir aux propos des témoins qui se sont exprimés dans ce reportage. Et tout d'abord le professeur Pierre Della Monica. Il était étudiant en médecine et externe à l'hôpital en 1969. Et il nous dit l'ampleur de la catastrophe, il nous dit les cadavres entassés dans les couloirs. Il fait référence à 14-18, il fait référence également à la grippe espagnole. Mais ce qui fait référence, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de banalisation d'un grand nombre de morts? Qu'en pensez-vous?
Oui, ces témoignages sont importants et aujourd'hui, ils nous surprennent. Nous ne sommes pas du tout habitués à ce type de réaction face à la mort et surtout à la mort en masse. Et là, d'une part, ce que l'on voit, bien sûr, c'est la moindre aversion au risque et la moindre aversion à la mort qui caractérise cette société qui, au demeurant, n'est pas si lointaine. C'était il y a 50 ans. Et il y a aussi un autre aspect que peuvent révéler ces témoignages, c'est cette nécessité pour cette société de continuer comme si la grippe n'existait pas. Enfin, quand on interroge les gens dans la rue, ils savent bien que les gens meurent, c'est pas possible. Il n'y a pas d'Internet, mais quand même, on sait que les gens meurent. Et ces personnes nous parlent, je ne sais pas, du poivre ou de la tisane. Et ils continuent à leur vie habituelle. Et ça m'a frappé aussi en lisant d'autres témoignages d'épidémies plus anciennes, comme notamment l'épidémie de choléra qui a frappé la France et Paris en 1832. Et où c'est une amie médecin qui m'a fait lire ce texte, le journal d'une aristocrate, la comtesse de Boigne, qui écrit « Nous n'avions ni le temps de nous apitoyer, ni le loisir de nous lamenter ». Et là, ce que l'on voit à travers ces différents témoignages, c'est la nécessité de maintenir une unité politique. Et on parlait tout à l'heure de la question des intérêts et des intérêts politiques, mais en voilà un très important. Et celui-là prime sur la question qui est celle des vies décimées.
Alors, autre différence frappante, cette fois soulignée par l'infectiologue Max Micou, c'est le traitement de la pandémie dans les médias, Ariel Kolonomos.
Absolument, c'est un fait. Les médias étaient beaucoup moins développés et il n'y avait pas d'information continue, il n'y avait pas d'Internet, donc il y avait moins d'accès à l'information. Et donc, on ne pouvait pas, de manière permanente, faire ces évaluations et ces bilans. C'est une donnée de l'état technologique de ces deux sociétés, donc en 1968 et aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi une autre chose, et c'est là où peut-être je mettrai un bémol par rapport à ce qui est dit dans ce témoignage, c'est que peut-être n'y avait-il pas une demande de savoir qui était si importante. Parce que après tout, encore une fois, enfin, on savait que les gens mouraient, mais peut-être on s'en préoccupait moins. Et ça, justement, c'est une différence par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est une question de moyens de communication, c'est une question de moyens d'évaluation, d'un moyen de prédiction aussi, prédire le nombre de morts qui va avoir lieu si le confinement n'est pas mis en place ou n'est pas maintenu. Mais c'est aussi une question de demande sociale. Et c'est là où, justement, le rapport à la mort et la manière dont ce rapport se constitue de manière politique a fondamentalement changé. Pour faire un parallèle avec la situation contemporaine, il y a un cas de figure qui est extrêmement intéressant, qui est celui de la Grande-Bretagne. Boris Johnson, et peut-être parce que c'est un homme de 68, je ne sais pas, mais Boris Johnson, alors même que cette pandémie se diffuse, qu'elle fait énormément de morts, choisit une stratégie qui est celle de l'immunité collective. Et devant les Britanniques, à la télévision justement, il dit « il va falloir s'y faire, nous allons chacun perdre des êtres qui nous sont chers. Et il faut continuer. » Et ça c'est justement l'ancien régime, c'est old school. En 1968, on aurait pu dire « il faut continuer ». Mais ça n'a pas tenu. Il a dû faire volte-face. C'est un équilibre, celui-là, qui est très difficile politiquement à tenir, et il a dû changer. Et il n'a pas pu faire payer avec des vies, il a dû payer pour des vies. Et c'est dans ce régime-là où nous sommes aujourd'hui, un régime d'ailleurs qui est critiqué par certaines personnes qui disent que nous sommes trop précautionneux. Et on l'entend beaucoup, à gauche, à droite, enfin d'ailleurs politiquement à l'extrême gauche ou à l'extrême droite parfois. Enfin bon, on nous dit finalement les mesures de confinement sont liberticides ou bien elles tuent l'économie.
On entend beaucoup de critiques, effectivement, à droite et à gauche, Ariel. Et lorsque vous parliez de l'attitude de old school de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, cela nous ramène à 69 et à une des réflexions d'Isabelle de Ramon dans notre reportage. À l'époque, elle a 15 ans et elle se souvient qu'à l'époque, on sortait justement de mai 68 et qu'on était plus centré sur la guerre du Vietnam, la guerre du Biafra. Il y avait également le rideau de fer. Donc on voit bien que le contexte historique et international joue également dans ce rapport à la mort.
Bien évidemment. Et le parallèle avec les guerres est extrêmement intéressant parce que dans le contexte des guerres, les guerres du passé étaient beaucoup plus meurtrières qu'elles ne sont aujourd'hui. Il y a véritablement une évolution dans le rapport à la mort que l'on voit également dans le cadre des guerres. La guerre de Corée des années 50 était plus meurtrière que la guerre du Vietnam, et la guerre du Vietnam a été plus meurtrière que les guerres, la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe et la deuxième guerre du Golfe. Il y a une moindre acceptation de la mort à la fois infligée à l'ennemi en tuant des civils dans le camp ennemi et à la mort subie, les soldats qui meurent pour ce qu'on appelle mourir pour la patrie. Et la guerre du Vietnam a été très très meurtrière, bien évidemment.
Et c'est justement après la guerre du Vietnam que en quelque sorte, les corps des morts ont disparu des médias, que la censure a commencé à sévir. Aujourd'hui, certains soldats français, notamment, meurent au Mali. On ne voit jamais leurs corps morts. J'aimerais que l'on revienne, justement, Ariel Colonomo, sur une dernière dimension très très forte dans cette gestion par les gouvernements de cette pandémie Covid-19, c'est la question du politique dont vous nous avez déjà parlé. Dans nos témoignages, on entend Pierre Della Monica souligner que les politiques ne s'impliquaient pas du tout dans la pandémie de 69, que c'était une histoire de médecins et que ça restait entre les médecins et qu'à ce moment-là, le pouvoir public n'était pas intervenu du tout pour dire aux gens « restez chez vous, protégez-vous ». En tout cas, il n'en a aucun souvenir. Aujourd'hui, c'est le contraire.
Bien sûr, le pouvoir politique ne veut pas se retrouver dans la situation où il doit avoir à rendre des comptes en raison des morts qu'il aurait pu prévenir. C'est une critique terrible pour un gouvernement qui est énoncée toujours de cette manière. De cette manière, si vous aviez fait cela, eh bien à ce moment-là, le nombre de morts aurait été plus important. Donc, vous êtes responsable de ce nombre de morts que vous n'avez pas sauvé.
Et d'ailleurs, il y aura très certainement des comptes à rendre, selon l'expression consacrée, par rapport au discours des politiques en général, par rapport aux masques, par exemple.
Oui, je crois qu'évidemment, enfin, au sein d'une société, cette demande d'explication, elle est importante, elle est légitime. Un gouvernement est responsable des conséquences de ses actes. En même temps, alors bon, c'est pas du tout mon rôle d'être l'avocat du gouvernement ou des gouvernements, mais il faut avoir à l'esprit une chose, c'est que ce sont des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre et il n'y a pas là de science. C'est une question d'appréciation. Et c'est aussi une question d'appréciation du risque que les membres de votre société sont prêts à prendre dans un contexte comme celui-là. En 68, manifestement, les gens étaient prêts à prendre des risques. Et le gouvernement n'a pas fait obstacle dans cette prise de risque. Et c'est plus simple, d'une certaine manière, pour un gouvernement que d'imposer des confinements qui sont coûteux économiquement, que de bouleverser la vie d'une société. C'est-à-dire, je pense que dans un an, dans deux ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on aura une image, une analyse de ce qui s'est passé, des décisions qui ont été prises, et on pourra juger plus facilement que l'on ne le fait aujourd'hui. Je pense que tous les gouvernements n'ont pas la même responsabilité. Et on verra quelles auront été les bonnes décisions qui ont été prises et les mauvaises décisions.
Tous les gouvernements n'ont pas les mêmes responsabilités et commencent à s'exprimer d'ailleurs des demandes de réparation adressées à la Chine. Ce terme de réparation évoque largement le temps de la guerre, ou en tout cas des après-guerres. Ariel Kolonomos, comment vous analysez justement ces demandes de réparation au temps du Covid ?
Oui, c'est un phénomène extrêmement intéressant et singulier. Et là aussi, on voit ce parallèle du prix de la vie, à la fois dans le domaine de la santé dans un contexte pandémique et dans un contexte de guerre, ou dans un contexte aussi dans le cadre du terrorisme, par exemple. Il y a des réparations qui sont demandées au nom des crimes du terrorisme. Ce cas de figure aujourd'hui des demandes de réparation qui sont adressées à la Chine est très particulier. Donc, dans plusieurs États américains, des plaintes ont été déposées, des plaintes en nom collectif, en anglais le terme est class action lawsuit, ont été déposées dans des tribunaux au civil dans plusieurs États américains. Et elles demandent des réparations monétaires en raison des dommages économiques causés par la pandémie en raison d'une faute qui est attribuée à la Chine. Et cette question-là d'une responsabilité causale de la pandémie, elle mérite d'être posée. Je n'ai pas encore la réponse, mais il semblerait qu'une des causes possibles, eh bien, c'est ce marché aux animaux dits sauvages et animaux vivants, d'où se serait propagé le virus. C'est une des possibilités. L'autre est encore plus farfelue, enfin, les laboratoires. Mais là, il peut y avoir une responsabilité, et la responsabilité est très lourde. Alors, ces plaintes, juridiquement, très certainement n'aboutiront pas, parce qu'il y a une clause de souveraineté qui fait qu'aux États-Unis, on peut demander des réparations contre des entités non américaines, au civil, mais les États sont protégés par des clauses de souveraineté. Cela étant, c'est là un signal très fort d'une demande de réparation. Et peut-être voit-on se profiler à l'horizon l'idée d'une justice internationale, comme dans le cadre d'une guerre. Et si mes souvenirs sont bons, c'était il y a un mois, le professeur Sicard avait, dans un entretien, évoqué la possibilité, voire la nécessité, d'un tribunal pénal sanitaire, où là seraient jugés des crimes qui sont des atteintes à la santé publique.
Alors effectivement, Didier Sicard, le spécialiste des maladies infectieuses, qui a longtemps d'ailleurs travaillé sur le VIH et qui est aujourd'hui professeur émérite à la Sorbonne Université, est tout à fait frappé dans cette crise par l'indifférence au point de départ, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire il est frappé par l'indifférence quant à l'origine de la pandémie et il invite à chercher en quelque sorte une cause à la pandémie. Ariel Kolonomos, mais aussi donc une responsabilité de cette cause. Et c'est donc une recherche de justice là qui est formulée.
Oui, c'est une demande de justice qui est adressée à la Chine. Alors, ce qui est problématique par ailleurs, c'est que maintenant, c'est devenu un des chevaux de bataille de Trump dans sa quête de réélection et qu'il utilise en effet cet argument, cet épouvantail, Mais il n'en demeure pas moins que cette question d'une responsabilité à l'origine en Chine de cette pandémie mérite d'être posée. Ensuite, peut-être que les conclusions n'iront pas dans le sens de cette responsabilité chinoise, mais il est bien évidemment important de réfléchir à cette question-là de la responsabilité.
À travers peut-être un jour un tribunal pénal sanitaire. Grand merci, Ariel Kolonomos.
Merci Valérie.
Je rappelle votre livre « Un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure ». C'est aux éditions Presse universitaire de France. Ainsi s'achève cet épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon, Sophie Janin, Clémentine Métainier et Françoise Delignon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, écrivez-nous, exprimez-vous, abonnez-vous au podcast de notre émission sur notre application RFI Pure Radio. Réécoutez, cette émission, c'est la vôtre.